Bonjour, nous sommes le lundi 8 octobre, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
Voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintrice, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, on va parler Bulle et Coco, ou si vous préférez, chansons réalistes et BD, puisque mon invité publie un roman graphique sur la première femme à avoir enregistré un 78 tours. Et non, Antonin, tu n'as pas raison, je n'étais pas présent à cette époque. Bonjour, Joanne Gelloui.
Bonjour.
Quand l'avez-vous rencontré, cette femme ?
Où sont tous mes amants ? Jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants?
C'est donc Fréhel qui chante « Où sont passés mes amants ?» Et donc vous êtes ici, Joanne Gelloui, je redonne votre nom, parce que vous publiez aujourd'hui un magnifique roman graphique, je dirais peut-être une BD, j'espère que ça ne vous vexera pas.
Pas du tout.
Aux éditions Nada, donc c'est une biographie illustrée de Fréhel, une immense vedette du café-concert, et je vous repose donc ma question, où un jeune homme comme vous a pu rencontrer cette vieille dame morte il y a plus d'un demi-siècle ?
Rencontrer, je réfléchissais justement ce matin, comment je l'ai rencontré, est-ce que je l'ai rencontré ? Je crois que je l'ai rencontré. Oui, effectivement, elle est morte en 1951, donc j'étais pas né, pas vraiment. Je crois que, alors déjà pour un peu le storytelling, on va dire, je suis tombé sur un article sur elle. Enfin, je connaissais ses chansons, quelques-unes de ses chansons, La Java Bleue, forcément, qui est la plus connue de toutes, c'est son tube, on va dire. Et un jour, je suis tombé par hasard sur un article de 1948. Où ça raconte, c'est le premier chapitre.
C'est
de...
quoi, c'est par internet que vous trouvez l'article?
Oui, par internet. Oui, parce que internet c'est un puissant fond, alors que moi j'aime beaucoup faire des recherches et je suis plutôt curieux. Du coup, de fil en aiguille, des fois je tombe sur des choses, je fais des recherches pour plus tard, etc. Et là, je suis tombé sur cet article sur Fréhel et je me suis dit, mais elle a vraiment une vie un peu triste cette femme. Alors du coup, je suis allé un peu plus loin et j'ai regardé ce qu'il y avait et je me dis, mais il y a rien en fait sur elle. Et puis là, j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose.
Ah oui, donc une envie d'explorer le passé, de lui redonner voilà, vie en quelque sorte.
Voilà, et de la réhabiliter. En fait, j'aime bien, il y a un journaliste qui a dit ça l'autre jour, et réhabiliter, ouais, je trouve que c'est le mot, parce qu'il y a pas mal de vedettes comme ça qui sont un peu tombées dans l'oubli. Alors Fréhel, elle n'est pas complètement tombée dans l'oubli.
Oui, on connaît le nom, mais on ne sait pas, on sait que, enfin, moi je savais un peu qu'elle avait eu une vie limite, enfin, compliquée, mais pas tous les détails.
Limite.
Il y a la drogue, il y a les hommes.
Oui, c'était une femme entière. Alors c'est ça qui m'a plu.
Il y a l'alcool aussi.
Oui, l'alcool. Bah, oui, parce qu'après elle a un peu laissé tomber la coco, elle est plutôt tombée dans l'alcool. Mais oui, c'était une femme entière et c'est ça qui me plaît. Enfin, moi déjà, je fais des portraits de femmes.
Oui, parce que votre précédente BD était sur Marie Shelley. Il y a un point commun entre les deux ?
Alors c'est pas sur Marie Shelley du tout. C'était sur une autre vedette un peu déchue. C'était alors après c'est complètement loufoque. Hein. Ça s'appelait donc Shelley après l'autruche. Je tourne à droite.
D'accord.
Et voilà. C'est sur Shelley Duval, l'actrice qu'on connaît tous, mais qu'on connaît pas. Enfin, en France, on l'a un peu oubliée. Il y a que les cinéphiles, je pense, qui vraiment pointus se rappellent d'elle. Mais elle jouait, par exemple, avec Jack Nicholson dans Shining.
C'est une actrice américaine, Shelley Duval.
Voilà, Shelley Duval. Et qui, elle, pareil, elle était.
Alors moi, j'ai vu Shelley, j'ai foncé. Frankenstein.
Non, pas du tout. Et du coup, je me suis librement inspiré d'elle. C'est un petit hommage parce que j'aime beaucoup Shelley Duval. Voilà, et du coup, ma deuxième BD, c'est Fréhel, c'est un autre portrait de femme.
Est-ce qu'elles ont des points communs ? À part qu'il faut les réhabiliter, qu'on les connaît pas, qu'on les connaît sans les connaître, comme vous venez de le dire.
Bah oui, ça c'est le point commun. Mais après, Shelley Duval, enfin Shelley, mon précédent roman graphique, c'est pas du tout autobiographique. Hein. C'est complètement.
Vous êtes inspiré d'elle, alors que là vraiment
voilà,
on est dans un.
Là, c'est vraiment.
Là, on pourrait presque dire que c'est un biopic. Enfin,
chronologique. J'aime pas spécialement ce mot-là parce que il y a beaucoup de gens qui aiment pas les biopics. Moi, je voulais pas faire un biopic. Enfin, c'est un biopic.
Parce qu'il racontait son histoire, en fait.
Et après, moi, j'ai fait beaucoup de recherches.
Justement, ce que je vais vous demander, vous avez fait beaucoup de recherches. Vous êtes allé chercher où, alors ? Dans les mémoires des uns, des autres ?
Non, voilà, alors j'ai lu des biographies, la vie de Maurice Chevalier, parce qu'elle a croisé la vie de Maurice Chevalier, c'était le grand amour de sa vie. D'ailleurs, c'est ce qu'il a complètement perdu, je crois, c'était vraiment l'amour de sa vie.
Que lui a piqué Miss Tinguette, parce qu'on découvre qu'à l'époque, c'était presque aussi bien que les journaux People d'aujourd'hui, hein, y aurait de quoi faire.
Oui, de toute façon, à l'époque, oui, forcément, les histoires d'amour tristes, heureuses, ça date de...
C'est éternel.
C'est éternel, voilà. Et elle a croisé des grandes figures comme ça. Du coup, oui, je me suis inspiré, j'ai été chercher dans des biographies, même dans des romans, par exemple de Colette, la vagabonde, qui parle très bien du musical, qui d'ailleurs, il y a un personnage dedans qui est inspiré de Fréhel. Ensuite, il y a la biographie. Il n'y a qu'une seule biographie de Fréhel, mais qui n'est plus du tout rééditée, qui est complètement épuisée, des Époux Lacombe. Et je me suis pas mal appuyé là-dessus. Et puis après, c'est quand même, il y a pas mal de trous, quoi, parce que les dates d'un endroit à un autre, ce n'est pas les mêmes. Donc, il faut aller chercher. Je suis allé sur Internet, il n'y a pas grand-chose. Et je me suis rapproché plutôt de la BNF avec les coupures de journaux. Des articles.
Mais par exemple, quand vous la dessinez enfant, quasiment son premier concert, c'est devant des vaches en Bretagne. J'adore cette scène dans la BD. Ça, vous l'avez imaginé ou on
non,
a non, quelque part où elle le
non,
raconte
non, parce qu'elle l'a raconté. Donc ça, c'est vrai. Elle a été parce que sa mère, donc elle est née à Paris, Fréhel, boulevard Bessières, dans le 17e. Et puis sa mère, elle s'est vite débarrassée d'elle. Elle l'a mise chez les grands-parents, chez la grand-mère, qui s'occupait pas spécialement bien d'elle parce que la grand-mère était un peu alcoolique. Et elle chantait sur la lande avec les vaches, quoi. Alors, se faisant engueuler par la grand-mère, dit attention, est-ce que tu vas te faire botter l'arrière-train par une vache.
On peut retrouver des témoignages sonores d'elle aujourd'hui ?
Il y en a assez peu. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on parlait de recherche, en fait, de est-ce que j'ai trouvé Fréhel, est-ce que je l'ai rencontré ? C'était pas évident. Et l'autre jour, justement, j'ai rencontré un auteur de pièces de théâtre, Emmanuel Robert Espalieux, qui avait fait une pièce avec Myriam Boyer. Qui est sur Riviera et c'était sur Fréhel, donc la vie de Fréhel aussi. Et je l'ai rencontré parce que moi, ça m'intéressait aussi de rencontrer des gens qui avaient parlé de Fréhel. Et on a échangé, c'est vraiment sympathique parce que du coup, lui il m'a dit comment il avait cherché Fréhel et comment il l'avait rencontré. Et moi aussi, donc on a échangé nos. Et ce qui était intéressant, c'est que nous, on a l'impression d'avoir rencontré la même Fréhel, quoi. Et lui, il a lu donc ma BD et il a dit oui, je retrouve la Fréhel que j'ai rencontrée.
Et quand vous dites que vous l'avez rencontrée, est-ce qu'on la rencontre en l'écoutant ? Parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais dans votre roman graphique, elle dit qu'elle n'aime pas les disques. Donc là, j'imagine vrai. Que si elle s'entendait, elle trouverait ça horrible.
C'est ce qu'elle dit. Elle a fait assez peu d'enregistrements. Bon, elle a quand même, on n'oublie pas, elle a enregistré en 1908 son disque. Donc c'est la première.
Ça, c'est le premier 78 tours.
Ouais, alors on disait 78 tours, mais en fait, il tournait entre 70 et 80 tours pour les.
Pour les puristes.
Pour les puristes. Pour Antonin. J'ai mis 78 tours parce que voilà, c'est des. Elle enregistre en juin 1908 et il est sorti en 1909. On n'en trouve plus, c'est une rareté. Et elle a mis 18 ans, Donc c'est en 1926 qu'elle a réenregistré un disque. Donc elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas le micro. Elle chantait sans micro. Et. Et elle aimait pas ça, non, elle se donne pas à fond, et du coup, parce qu'elle, pour elle, c'était la confrontation avec le public, c'était ça qui.
À l'époque, vous avez travaillé, c'est les cafés-concerts, c'est le musical, c'est les grandes. Comment devenir une star
c'est un
parce
peu
que
la fin déjà.
Parce que moi, la question que je me pose, c'est comment on devenait une star comme elle, puisque finalement, il n'y avait pas de radio, pas de télé. Qui médiatisait tout ça? Ça se passait comment?
Il y a eu le café-concert, elle a commencé. Est-ce que les cafés-concerts, c'est un peu la fin? C'est 1914, on va dire que c'est la fin du café-concert, quoi. Ça a été remplacé par le music-hall. Parce qu'il faut savoir, par exemple, on l'a fait courte, le café-concert, il fallait que les artistes qui soient sur scène, déjà, il fallait qu'il y ait un seul instrument, genre un piano.
Il n'y a pas de sonorisation.
Voilà, ça aussi. Et c'était dans un endroit où il y avait du débit de boissons. Boisson. Il ne fallait pas qu'ils soient en costume de ville, il ne fallait pas qu'il y ait de costume. Après, en 1867, je crois, et ça a un peu changé les règles parce qu'ils ont un peu manifesté. Et là, ils avaient le droit à du costume. Parce qu'il y avait plein de règles. Comme, par exemple, il fallait qu'il y ait des décors fixes, etc. Et après, ça s'est développé. Et là, est né vraiment le music-hall à la française. Donc,
plus libre peut-être, moins rigide.
Moins rigide, on a le droit de faire des comédies, mais il fallait qu'ils aient qu'un seul acte, par exemple. Et tout ça. Donc, mais Fréhel, elle a chanté partout, dans les plus grandes salles, que ce soit l'Olympia, le Bataclan à l'époque était une immense salle. Enfin, c'était, c'est aujourd'hui un Bercy, quoi. En fait, on va dire son, en comparaison. Elle a chanté partout et elle a chanté dans des bars, par exemple, le soir, elle pouvait chanter à l'Olympia, puis le lendemain, elle a chanté dans un café, quoi. Enfin, voilà, c'était sa passion, c'était de confronter avec les gens et.
Vous vous disiez tout à l'heure que c'était une femme entière. Moi, en lisant le livre, je suis retrouvé que c'était une femme libre.
Entière et libre, absolument.
Il y a une liberté étonnante quand même dans sa vie.
Quoi. Alors, elle n'était pas politisée du tout. Du coup, on sait qu'elle a fait des petites erreurs malgré elle pendant la guerre, c'est-à-dire la
Seconde Guerre mondiale. Ouais, elle va en Allemagne.
Elle n'avait pas conscience de ça. J'ai lu qu'elle avait longtemps hésité. Et puis après, elle a été inquiétée. Elle a été emprisonnée pendant, je crois... une dizaine de jours et ils l'ont libéré parce qu'il y avait un mec d'un FFI qui lui a dit bah c'est non mais on se gourre, on fait gourance comme elle disait avec elle parce qu'elle a signé des contrats parce que les salles fermaient disons que pendant la guerre il fallait bien qu'ils vivent. Du coup elle a été chantée pour des prisonniers français mais elle avait aussi fait des actes un peu de résistance parce que elle dans ses poches de son tablier il y avait par exemple des boussoles pour qu'ils puissent s'échapper des salagues, etc. Et ils ont même ramené en train, caché sous les banquettes. Et là-bas, ils l'adoraient, ils l'appelaient maman, etc.
La grande découverte, en vous lisant, donc, on connaissait la chanteuse. Moi, encore une fois, je connaissais très mal sa vie. C'est une vie d'aventure. Elle part en Roumanie, elle va à Constantinople. C'est tout à fait fascinant à l'époque. Elle va quasiment vivre dans les champs en Roumanie, une petite fermière.
Oui, elle est partie 10 ans, en fait.
C'est étonnant, cette vie, quand même.
C'est en 1913 qu'elle est partie. Elle a rencontré la duchesse Anastasia qui était la cousine du tsar les princes ils l'aimaient beaucoup parce que elle était franc du collier quand elle parle au baron de Rothschild quand elle lui dit bah dis donc t'as pas un rond enfin qu'est-ce que tu me donnes la pièce tu te fiches de moi enfin voilà ou elle était vraiment libre
cash
et du coup ils adoraient ça et du coup c'est la cousine qui l'a emmenée dans l'Orient Express et elle a trouvé un contrat en Russie en Turquie, etc. Et...
Ce qui est d'ailleurs très marrant, puisqu'on en parle à l'instant, là, c'est qu'on voit aussi qu'à l'époque, il y a une espèce de mélange entre le peuple et la haute aristocratie dans ces endroits-là. C'est
une mixité sociale. Ils venaient s'encanailler, en fait. Ça les faisait... C'était ça, quoi. C'était... il y avait de tout, en fait. Il peut y avoir des domestiques, ce qu'on appelait des domestiques, venir au concert, et puis des gens de la haute. Et il y avait des lieux comme ça, chez Pagès, qui étaient des restaurants à la mode, un peu comme aujourd'hui, fallait montrer un peu patte blanche. C'était des restaurants qui étaient blindés où chantait Frêle.
Alors moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, ce sont les dialogues. Vous avez un peu employé quelques mots depuis tout à l'heure. Vous mettez un peu d'argot de l'époque, mais pas trop. Ça fait pas trop fabriqué. Vous n'avez pas essayé de refaire un film de Maurice Carnet, par exemple. C'est assez subtil dans la manière dont c'est fait. Alors, j'avais envie de demander comment vous aviez travaillé ces dialogues.
Alors déjà merci parce que le dialogue c'est ce qu'il y a de plus difficile même en film, en scénario de film, c'est le dialogue, c'est assez compliqué.
Bah là ils sont très bons hein, franchement.
Quand j'écris par exemple un scénario de film, j'ai un peu plus de mal avec le dialogue. Alors en BD peut-être moins, je sais pas pourquoi, parce que je dessine en fait, ça vient comme ça, c'est instinctif. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma Frêle.
Ouais, vous avez trouvé la voix.
Et je la quitte pas Frêle en fait dans la BD, je la dessine tout le temps, elle est de toutes les cases. Et moi, en fait, je n'écris pas les dialogues à l'avance, je dessine et je fais le dialogue.
D'accord. Et vous les réalisez, vous les retravaillez, vous les... Non ?
Alors après, oui, forcément, parce que quand j'ai terminé...
Il y a un truc, quand vous lisez, vous dites, est-ce que c'est juste ? Est-ce que ça sonne bien ? Ou c'est assez instinctif ?
C'est instinctif, ça tombe comme ça. Alors après, moi, je n'ai pas relu la BD, enfin, je l'ai relu qu'après, c'est-à-dire avec mon éditrice, parce qu'on a fait un gros travail après. Parce qu'on a changé les planches, on a interverti, on a fait comme un travail de montage et après on a retravaillé quelques petites choses, mais dans l'ensemble non, on a assez peu. Non, je crois que ça vient comme ça. Puis Frêle, elle m'a porté. Enfin, c'est 3 ans, j'ai travaillé 3 ans avec elle. Enfin, elle m'habitait quoi. Donc et puis l'argot parisien, on le retrouve un peu. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'habite Paris et il y a des choses comme ça qui sont typiquement parisiennes. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go, go,
Annie Winehouse, Rehab, une fréelle moderne, on demande tout de suite à notre invité.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Alors, on est toujours avec Joanne Gélouis. Je me demande même si au début j'ai donné votre nom. Je crois que j'ai oublié de vous nommer. Pardon, excusez-moi.
Non, ça a été fait.
On a beaucoup parlé de Fréhel, mais peu de vous. Ce qui prouve votre générosité. Donc, je me suis demandé, en écoutant l'émission, en lisant la BD, puisque vous avez fait une BD sur Fréhel, ça y est, je suis perdu. S'il y avait l'équivalent de Fréhel, à part Amy Winehouse, je ne voyais personne. Alors, je vais vous demander si vous voyez une Fréhel moderne.
Non. Oh, ben, je. Non, enfin dans la vie, dans les chansons peut-être. Moi j'aime Catherine Ringer, je trouve qu'elle ferait une belle frêle. Après ils ont pas du tout la même vie, mais j'ai beaucoup.
C'est plus la voix peut-être, la gouaille.
Ouais, l'authenticité. J'aime beaucoup Catherine Ringer. Je trouve que c'est quelqu'un de fort sympathique et de généreux. Et je pense que c'est elle qui.
Donc vous aimez, si vous deviez, parce que vous avez travaillé pour le cinéma, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, vous écrivez des scénarios. On se dit que vous avez écrit un roman graphique, mais vous auriez peut-être aimé faire un film. Donc vous aimeriez avoir Catherine Ringer pour jouer Fréhel ?
Pourquoi pas ? Je crois qu'elle ne fait pas de cinéma, mais pourquoi pas ? Mais en parler avec elle, j'aimerais bien parler de Fréhel avec elle. Ouais. Après, un film, oui, ça serait chouette de faire un film sur Fréhel.
Justement, je vais vous demander, vous avez dès le début su que ça serait une BD ou vous avez hésité ? Vous avez eu envie d'écrire
Non, j'ai su que c'était une BD parce que non, c'était évident. Un film, non, ça mettrait peut-être 15 ans avec moi parce que j'ai pas un nom qui porte donc.
Parce que ça coûterait très cher à produire.
Oui, très cher. Il faut des noms pour faire un film comme ça. Enfin, je crois. Mais non, la BD, c'était tout de suite évident. Parce que je
mais quand même 3 ans.
3 ans, oui, j'ai fait la première planche à 3 ans et donc c'était beau.
Beaucoup. Et c'est quoi, on va parler du travail de BDAS, de votre travail, Joanne Gélouis. C'est quoi, c'est trouver les bonnes couleurs, c'est trouver le bon trait, c'est quoi ces 3 ans de travail ?
Alors, mon trait, non, parce que j'ai
écrire l'histoire ?
L'histoire, non, d'écrire l'histoire non plus, c'était de. Parce que c'est très dense, Fréhel, sa vie, c'est quand même. Et puis, ça, on traverse quand même des périodes très marquées. Hein. On traverse deux guerres mondiales, on va jusqu'en 1951. Donc, c'était de choisir, en fait, ce que je garde et ce que je garde pas.
Trouver des choses qui soient significativement fortes, physiquement fortes, et en même temps, pas être toujours dans des scènes très fortes. C'est qu'il faut savoir ménager une histoire, un récit.
Par exemple, c'est 10 ans dans les pays de l'Est, c'est 10 ans, quoi. Donc, je me dis, comment je raconte 10 ans sans en perdre quelque chose, en garder vraiment l'essence et les. Oui, c'était plutôt faire des choix. Mais le scénario, il est venu comme ça avec le dessin. Je n'ai pas contrarié mon dessin. Je ne contrarie jamais mon dessin. Ça part comme ça.
C'est une bonne chose. Est-ce que quand on fait une BD, enfin, un roman graphique, une BD sur Fréhel, on n'est pas frustré de se dire qu'on la monte, mais on ne peut pas la faire entendre ? C'est quand même paradoxal. Vous la faites vivre sans la faire entendre ?
Moi, j'ai l'impression, ce que je disais, j'ai l'impression d'avoir vécu avec elle, qu'elle était là dans mon quotidien. Donc. J'espère que les gens, en la lisant, enfin les retours que j'ai eus, ils ont eu envie en tout cas de réécouter les chansons. Donc ça m'a vraiment touché. Parce que les textes sont magnifiques de Fréhel. C'est quand même une pré-punk, enfin on va dire Fréhel.
J'aime beaucoup, voilà. Fréhel, la pré-punk.
Voilà, les gens quand ils disent Fréhel, oh là là, c'est vieux, c'est ringard. Ben alors pas du tout. Enfin les textes, ils sont d'une grande.
Mais c'est elle qui écrivait ces textes ?
Non, elle les choisissait. On écrivait pour elle.
Et vous, vous amusez beaucoup entre les textes et ce que vous racontez. Vous vous montrez l'écho entre les textes et sa vie.
Oui, ça, je
dans
voulais.
Dans le scénario, vous avez beaucoup travaillé sur ça.
Ben, je voulais montrer aussi que c'était une chanteuse et pas montrer. Je voulais pas faire un biopic où on raconte que sa vie misérable parce que Fréhel, elle est drôle aussi. Quand elle parle à des bourgeoises, à des duchesses et des machins, qu'elle leur dit « Ah, t'as raison, je suis pas assez moche pour porter des colliers. » Enfin, elle était drôle. Donc, en fait, je voulais montrer tous les. Aspects,
c'est très marrant quand vous avez parlé, on a l'impression que vous l'avez rencontré.
On
a l'impression que vous l'avez vu hier, que c'est une copine quasiment.
Moi j'habite dans le 18e, alors du coup je me balade dans la rue et je sais les endroits où elle habitait, j'ai cherché, j'ai regardé les immeubles où elle était. Parfois quand je me promène, j'ai l'impression qu'elle n'est pas loin. Et puis s'il y a quelque part après la mort, on ne sait rien, on verra ça plus tard. Je me dis que peut-être elle doit être contente parce que moi j'ai vraiment voulu lui rendre hommage de façon sincère.
Quand j'ai vu que, quand, en lisant votre bio, que vous aviez travaillé sur des décors de cinéma, et je trouve aussi que dans le livre il y a quelque chose qui est très beau, c'est la reconstitution du Paris de l'époque. Vous êtes beaucoup documenté, ça vous a servi là d'avoir travaillé sur d'avoir été décorateur avant. Les décors sont très très beaux.
Ah merci. Après j'ai pas voulu faire un truc de carte postale en fait. Je me suis.
Oui c'est ça. C'est moi je pensais à ça. Je vous laisse répondre. Mais c'est les reconstitutions en film notamment souvent en France sont très empesées. C'est très carte postale. Et votre BD justement elle a pas ça quoi. C'est sûrement dû à votre trait qui vibre un peu aux aquarelles que vous avez choisies
aux
couleurs.
Oui il y a ça. Je pense qu'il y a l'aquarelle qui joue aussi qui m'a aidé énormément.
Ce qui fait que c'est à la fois on reconnaît mais c'est toujours un peu passé, c'est...
Voilà, en fait, c'est plutôt une idée de... Parce que le problème, par exemple... Alors, en cinéma, il y a des fois des décors qui sont magnifiques, mais alors des fois, quand je vois des films d'époque, je me dis, oh, attends, on sent trop la déco, on sent trop la patine. Moi, qui ai été décorateur pendant 8 ans, je le sens, enfin, voilà. Et puis, moi, ça m'a servi, les beaux-arts, ça m'a servi, l'histoire de l'art, ça m'a servi, enfin, voilà, pour plein de choses, et de travailler dans le décor, voilà. Et puis, les décors, en cinéma, en BD, il faut travailler par strates, en fait, par couches.
C'est-à-dire ?
Par exemple, je prends un exemple concret. Par exemple, si on fait un film qui se passe en 1960, faut pas nous servir des trucs orange, des grosses fleurs et tout ça. Non, les années 60, c'est pas ça. Quand on va chez des personnes dans les années 60, il y a des couches de 1930, de 1940, de 1950. Enfin voilà, il faut que ça soit vivant, il faut que ça aille avec le personnage, il faut que ça raconte le décor quelque chose. Voilà, il faut que ça soit subtil.
Et justement, là, vous aviez des photos de ces appartements, de ces maisons de...
Mais en fait, non. Il y a des endroits où il n'y a aucune photo parce qu'ils ont été démolis.
Des lieux de théâtre dont vous parlez.
Après, sur Internet, il y a des passionnés qui font des sites avec des cartes postales, des choses comme ça. Donc, par exemple, je tapais La Pépinière, la salle de concert La Pépinière. J'ai cherché, j'ai trouvé des photos. Alors, je m'inspire. Mais des fois, il n'y avait pas. Alors, j'ai inventé.
D'accord, parce que vous n'êtes pas non plus dans une reconstitution naturaliste.
Par exemple,
sur les costumes, vous avez sûrement passé moins de temps que sur les décors.
Non, les costumes, j'ai quand même cherché pour avoir une idée de. Non, j'ai cherché. Vous ne trouvez pas ?
Non, je les trouve plus simples, plus dépouillés, mais peut-être j'ai moins fait attention. C'est peut-être aussi moi ce qui me touche, moi.
Ouais, non, j'ai gardé une idée de. Après, je voulais pas.
C'est une très jolie photo qui fait la couverture jaune, là, avec cette robe jaune.
Oui, alors
celle-là, elle m'a marqué.
En fait, c'était une affiche qui avait été faite pour elle pour un concert. Je crois que c'est pour son retour à l'Olympia en 1924 ou 1925, parce qu'on n'est pas sûr de la date. Que je pense qu'elle est revenue à l'Olympia en 1923 en faisant des apparitions pour tester en fait son. Et puis après, son grand retour c'était 1925, mais cette affiche a été faite et elle est sur les pochettes de disques de les 33 tours. Et du coup, je me suis inspiré, je l'ai mis. Enfin voilà, parce que je trouve que c'était un bon rappel, un clin d'œil.
Parce qu'en plus, c'est une photo de scène. Si je me souviens, j'ai pas la BD sous les yeux, mais si je me souviens bien, c'est
une
photo
de scène. Elle sort d'un rideau.
Et
puis ça fait écho à ce que dans la BD, au moment où elle fait son retour à l'Olympia.
À quel moment vous décidez d'avoir une double narration, une sorte de double narration, puisqu'on la voit contemporaine qui raconte son histoire, qui se souvient, puis en même temps, vous avez le fil de l'histoire.
J'ai choisi ça parce que, en fait, des fois, ce que je trouve fastidieux dans les biopics. En BD ou même en film, c'est que on déroule la frise historique, quoi. Et cette fois, c'est un peu barbant. Alors, des fois, c'est très réussi. Parce que je pense à Kiki de Montparnasse, qui est de Catel, qui est absolument, qui est magnifique, c'est sublime. Donc là, ça marche. Mais des fois, c'est un peu rébarbatif. Mais moi, je me suis dit à faire des allers-retours comme au cinéma avec des flashbacks et que ça soit elle qui raconte. Je trouve que ça nous impliquait plus que si on était à l'extérieur.
Votre prochain projet, justement, c'est un roman graphique, un film.
Alors là, on est en préparation mon nouveau court-métrage avec la même boîte de production qui me suit depuis des années, Insolence Production. Je réfléchis sur d'autres romans graphiques. Et j'ai plusieurs idées. Et puis du coup, parce que comme je suis beaucoup en dédicace en ce moment, les gens, ils viennent à moi. Je rencontre des auteurs. Et voilà, hier, j'ai fait encore une très belle rencontre. J'ai rencontré des gens et qui me proposent des choses. Je vais réfléchir un peu.
Vous parliez à l'instant de Catel et de Kiki de Montparnasse. Vous aviez quelle autre source d'inspiration ? Vous pensiez à quoi ? Vous avez relu quoi avant de vous lancer ?
Rien, parce que j'ai pas une. Je connais pas grand chose en roman graphique, on va dire. J'ai des auteurs, plus en dessin, je suis plus attiré par le dessin. Après, oui, j'ai des références, c'est pas des références, c'est des gens que j'apprécie. Voilà, c'est.
Et donc, c'est plutôt qui ? Donc Kiki de Montparnasse.
Ah, il y a Pedrosa que j'aime beaucoup, qui c'est magnifique. Il y a Hippolyte aussi que j'aime beaucoup. Après, il y a Quentin Blek qui est l'auteur, qui est illustrateur très célèbre de Roald Dahl, avec qui j'ai été nourri quand j'étais petit. Philippe Dumas qui est un illustrateur français. Il y a plein d'auteurs comme ça, mais après. C'est pas des sources d'inspiration, c'est des gens que j'admire, que j'apprécie.
Et par rapport au cinéma, on travaille en équipe, là vous avez travaillé très seul, vous avez besoin de ces
au
deux,
début, oui,
de ces deux rythmes.
Oui, parce que le cinéma c'est très long. On va dire que c'est très très long parce que à partir du moment qu'on a une V1 et puis qu'on arrive à la V36 du scénario, il se passe parce qu'en fait on va demander de l'argent, on va avoir des guichets, etc. Et en fait à chaque fois on a des retours de 15 personnes. Ah oui, alors là ce passage-là, puis ce personnage-là, là, là. Donc on réécrit sans arrêt. C'est très 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 bon, épuisant moralement.
C'est-à-dire que là l'avantage c'est que c'est vous qui êtes le maître du
pénard,
projet. Là vous faites
ce que je suis pénard, je fais ce que je veux, je fais voilà. Et puis là j'avais pas d'éditeur quand j'ai commencé cette BD là, je les ai trouvés en cours de route. J'avais fait 60-70
plus. On va les rappeler, c'est Nada Édition.
Je les ai rencontrés, c'était coup de foudre avec eux parce qu'il y avait d'autres éditeurs qui étaient intéressés. Puis eux je les ai rencontrés et je sentais qu'ils étaient aussi amoureux de Fréhel.
Oui, parce
et
que
je me suis dit bah c'est avec eux et ils seront.
Parce que c'est aussi un pari, c'est un beau livre, il est cartonné, il est très. Ah oui. Alors il y a pas le nombre de pages parce qu'ils sont pas numéro.
Il fait 288 pages.
Ouais, c'est ça, c'est un beau pavé. Ouais.
Oui, c'est un bel objet en plus. Oui, non, ils ont vraiment. Après, on travaille pas seul. Quand on a fini le livre, après, c'est tout le travail de l'édition, du graphisme, etc.
Bah, écoutez, merci beaucoup, Johan G. Louis. Voilà, j'ai réussi à le dire sans me tromper. Je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous avez publié, vous avez surtout dessiné et écrit Fréhel, une BD, un roman graphique qui est paru aux éditions Nada Édition. Vous venez d'écouter La Relève, une émission proposée et présentée par Christophe avec à la réalisation l'indispensable Antonin. Comme l'an dernier, vous pourrez retrouver l'émission sur la page Facebook de La Relève Radio Campus Paris ou sur le site de Radio Campus Paris à la rubrique La Relève. Tout ça est très logique. Merci de nous avoir écoutés. Vous allez retrouver maintenant le programme musical de Radio Campus à 19h la matinale. Et nous, on se retrouve dans 335 heures pour de nouvelles aventures. Merci à vous.